Voici une question dont la réponse mettra fin à toute discussion sur le retour de Jésus. Est-ce que c'est vrai que Jésus revient bientôt? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, j'ai bien hâte d'entendre les réponses que la Bible va nous donner aux questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Alors, les voici. Qui sont ceux qui reconnaîtront la voix du Seigneur Jésus quand il reviendra? Où est le Seigneur Jésus aujourd'hui? Qui Jésus appelle-t-il à lui? Est-ce que les croyants cesseront de souffrir un jour? Est-ce que le péché va toujours exister? Ou est-ce que les croyants vont passer l'éternité? Est-ce que c'est vrai que Jésus revient bientôt? Demeurez avec nous. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit le Cantique des Cantiques en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, comme tu es bon de nous enseigner ta parole jour après jour, comme on a besoin de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour qu'on puisse vraiment connaître quelle est ta pensée à travers ta parole. On veut que tu nous enseignes, Seigneur, et que tu nous aides à retenir ta parole et à la mettre en pratique. On compte sur toi, mon Dieu. Merci. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que les opinions étaient partagées au sujet du premier verset du deuxième chapitre. « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » Certains attribuent les paroles de ce verset à Salomon, d'autres à la Sulamite. Nous avons choisi de les attribuer à Salomon, mais tout en étant conscients que si c'est la Sulamite qui les a prononcées, nous pouvons les appliquer à Salomon, car la Sulamite est une image de l'Église qui reflète la beauté du Seigneur Jésus. Dans le Cantique des Cantiques, Salomon est une image de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut affirmer qu'il est humble sans que cela soit de l'orgueil. Un être humain qui affirme être humble se vante en le disant. C'est une forme d'orgueil, et cela démontre que son humilité n'est pas parfaite. Par contre, Jésus-Christ a laissé la gloire qu'il avait auprès de son Père céleste pour venir sur terre, vivre parmi les hommes. Il a accepté de subir des humiliations et même de mourir sur la croix pour nous racheter. En affirmant être comme un narcisse de Saron, Salomon, qui est une image de Jésus-Christ, dit que le Seigneur Jésus est un objet d'admiration et de délices. Les narcisses de Saron, ou toute autre fleur de la vallée de Saron, étaient éclatantes de beauté. L'Épître aux Hébreux nous invite à considérer Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Hébreux chapitre 3, verset 1er. L'Église, qui est l'ensemble de véritables croyants et non une religion, doit refléter la beauté de Jésus-Christ. Par notre joie, notre attitude et notre conduite, nous reflétons la beauté de Jésus-Christ. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. La beauté de Jésus le distingue des autres hommes. Lorsqu'il est venu sur terre, il n'a jamais péché. Quoiqu'il ait été tenté, même fortement tenté, immédiatement après son baptême. Pendant sa vie, Jésus a démontré de l'amour, de la compassion, de la bonté, de la patience et de la miséricorde. Jésus nous a déjà invités à sa table de festin, c'est-à-dire à la table du salut et de la relation personnelle avec lui. Sa parole, la Bible, est le premier festin qu'il nous sert. De plus, le Seigneur Jésus a déjà procuré beaucoup de joie à de nombreuses personnes. Nous avons vu les exemples de Siméon, d'Anne et de Marie. Siméon et Anne attendaient la venue du Messie, alors que Marie a été choisie pour lui donner naissance. Le Seigneur Jésus nous propose un merveilleux festin dans sa parole. Ne nous contentons pas de restes et de miettes. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Nous employons aussi le mot étendard. Un étendard était bien connu, car les armées en employaient. Ils étaient un symbole de conquête. Le Seigneur Jésus m'a conquis, et je lui en rends grâce. Il a conquis les personnes de l'équipe qui nous aident à produire ces émissions. Le Seigneur Jésus est un conquérant qui libère. C'est une joie que d'être sous l'étendard de son amour. L'étendard est aussi un symbole de protection. Satan n'a pas pu mettre la main sur Job sans le consentement de Dieu qui lui a imposé des limites. Satan n'a pas pu mettre la main sur Jésus tant que son heure ne fut pas venue. Lorsque nous marchons dans les voies de Dieu sous la bannière du Seigneur Jésus, rien ne peut nous arriver sans que le Seigneur ne le permette. L'étendard est aussi un symbole de notre enrôlement dans l'armée du Seigneur. Le croyant est en guerre. Au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, nous sommes appelés à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer l'Évangile à un monde qui lui est hostile, et nous devons tenir ferme contre le diable. Cependant, nous appartenons au Seigneur et il veille sur nous. Nous avons dit lors de l'introduction de ce livre que de nombreux érudits pensent que le Cantique des Cantiques est formé de 5 cantiques. Nous arrivons maintenant au deuxième de ces cantiques. Il semble que Salomon se soit absenté pour un voyage. L'épouse a très hâte qu'il revienne. C'est merveilleux de voir la Sulamite attendre avec empressement le retour de son époux. Nous verrons l'accomplissement final de cette image lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son Église. Chers amis, poursuivons la lecture du livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Les enfants de Dieu reconnaissent la voix du berger. C'est la voix de mon bien-aimé. Le Seigneur Jésus a dit ceci au sujet de sa voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, les versets 27 et 28. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient. Avez-vous déjà pensé que le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est la voix du Seigneur Jésus qui se fera entendre? L'Église est formée de ceux qui ont entendu parler du Seigneur Jésus. Ils ont entendu parler de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Ils ont fait confiance à Jésus-Christ. Puisqu'ils l'écoutent aujourd'hui, ils reconnaîtront sa voix lorsqu'il reviendra. Jésus a déclaré, « Mes brebis entendent ma voix. » La brebis connaît son berger céleste. Nous avons une image de l'enlèvement de l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher son Église pour l'amener avec lui, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Le mot grec traduit « signal donné » est « kelesma » et il signifie « un ordre » ou « un cri stimulant ». Le cri, la voix et la trompette sont la voix de Jésus-Christ. « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient !» Quelle merveilleuse image de l'enlèvement de l'Église! Comparez cela à la venue du Seigneur Jésus pour établir son règne sur terre. Ce ne sera pas une voix que nous entendrons, mais un spectacle glorieux que nous verrons. Cette venue frappera à la vue et non l'ouïe. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Cependant, le jour de l'enlèvement de l'Église, nous entendrons la voix du bien-aimé. Le Seigneur Jésus revient nous prendre avec joie. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Salomon emploie du langage poétique. Dieu nous parle au moyen d'un cantique. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Psaume 18, verset 34. Ayelet Shakar signifie « biche de l'aurore » et cette expression est le titre du psaume 22. Ce psaume révèle que le Seigneur Jésus sera un homme de souffrance et il annonce sa mort sur la croix. C'est une image de la biche de l'aurore. Les chiens ont poursuivi la biche toute la nuit. Ils ont déchiré sa chair. Ils ont essayé de la tuer. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Citation du psaume 22, le verset 17. Cependant, lorsque le soleil se lève, que découvrons-nous? Il est la biche de l'aurore, et il se tient sur les sommets de montagnes. Il a été délivré de la mort, il revient, mes amis. Il saute sur les montagnes et il bondit sur les collines. Je ne peux pas penser à une façon plus poétique de décrire le retour de Jésus-Christ sur la terre. Il a transformé toutes les pierres d'achoppement en marchepieds. Il a ouvert un chemin pour nous. En fait, il est le chemin. Nous sommes devant une belle image de son retour, lui qui est la biche qui revient en sautant sur les montagnes et en bondissant d'une colline à l'autre. Il se rapproche. Verset 9. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Jésus est derrière un mur, mais il veut souper avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus se tient derrière le mur. Il est allé s'asseoir à la droite du Père Céleste, et nous sommes ici-bas sur terre. Cela nous fait penser à la fois que Jésus a fui la foule des 5000 personnes qu'il avait nourries et qu'il s'est ensuite retiré à l'écart sur une montagne. Ses disciples étaient dans une barque sur la mer de Galilée alors qu'une tempête faisait rage. Nous sommes dans une situation semblable. Alors que la tempête fait rage, nous sommes au milieu de cette tempête sur la terre. Le Seigneur Jésus est avec le Père au ciel. Jésus est de l'autre côté du mur, et tout ce qu'il y a sous le soleil essaie de nous tenir loin de lui, le monde, la chair et le diable. Cependant, il nous dit la même chose qu'il a déclaré à Zachée. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » L'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 5. Jésus désire toujours souper avec nous, tout comme il est allé chez ce collecteur d'impôts et qu'il a passé du bon temps avec lui. Si vous lui ouvrez la porte de votre cœur, Jésus va y entrer. C'est de lui que Jean-Baptiste a dit. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Jean chapitre 1 verset 26. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas le Seigneur Jésus. Il est derrière un mur d'indifférence, de rébellion contre Dieu et de péché. C'est toute une image. Revenons au Cantique des Cantiques, chapitre 2, lisons les versets 10 et 11. « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. » Jésus appelle à lui une église sainte et irréprochable. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Le Seigneur Jésus a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Il l'a fait car il a l'intention de venir chercher son Église pour l'amener avec lui. C'est une Église purifiée qu'il fera paraître devant lui. Nous, les croyants, avons tous besoin de cette purification divine. Il nous lave et nous sanctifie par sa parole. C'est pour cette raison que nous enseignons sa parole sur les ondes de la radio. Jésus veut faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride. Il veut une église sainte et irréprochable. C'est pourquoi il lui lance cet appel. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Car voici, l'hiver est passé. Il fait froid sur la terre. Toutes les tempêtes de la vie cesseront. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Toutes les tempêtes de la vie cesseront. Éprouvez-vous des difficultés aujourd'hui, mes amis. Ne soyons pas surpris de la chose. et ne nous décourageons pas. Jésus nous a avertis qu'il y en aurait. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Ne perdez pas courage si vous avez des difficultés. C'est un signe que vous appartenez au Seigneur Jésus et que vous êtes un enfant de Dieu. Lorsque Jésus reviendra, ce sera la fin de tous vos ennuis. Il essuiera toutes vos larmes. Il guérira tous les cœurs brisés. Il n'y aura plus ni tristesse, ni peine lorsque nous serons en sa présence. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 7. Ces deux versets décrivent le ciel, là où l'Église que le Seigneur Jésus viendra chercher passera l'éternité avec lui. Il n'y aura plus de souffrance, ni morale, ni physique. La relation avec le Seigneur Jésus sera ininterrompue. Il n'y aura plus de péché pour l'entraver ou attrister le Seigneur Jésus. Il pourvoira à tous nos besoins. Le fleuve de l'eau de la vie coulera du trône de Dieu et de l'agneau. Je vous invite à lire les deux derniers chapitres de la Bible. C'est de là que j'ai tiré ces deux passages. Nous avons vu le Seigneur Jésus sauter d'une montagne à l'autre et bondir sur les collines en venant chercher son Église. Jésus est heureux de nous sauver. Il le fait de bon cœur, car il nous aime. C'est volontairement qu'il a accepté de donner sa vie sur la croix en rançon pour nous. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, les versets 17 et 18. Le Seigneur nous aime, et il veut notre bien. Ce sont des projets de paix éternelle qu'il a pour nous. Nous passerons l'éternité en relation intime avec Dieu. Il pourvoira à tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Nous le servirons avec gratitude et amour. Puisque le Seigneur Jésus est en nous, et que nous sommes en lui, nous sommes assurés que notre bonheur sera éternel. Et voici, je viens bientôt. Quel bel encouragement nous avons ici. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ses paroles sont certaines et véritables. Oh, quelle belle assurance! Jésus est venu une première fois donner sa vie en rançon pour nous, afin qu'il puisse revenir nous prendre pour l'éternité. Écoutons Caro, qui nous interprète une de ses chansons, Chant d'amour, qui nous parle de cette première venue de Jésus sur terre.
la bassesse de ta créature. Et quand je pense que le créateur de l'univers est descendu pour moi sur cette terre, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour. Tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et quand je pense que tu y as laissé ta peau afin de m'offrir le plus beau cadeau, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Je te vois sur la croix, ton visage ensanglanté, tes mains et tes pieds percés. Et ton regard me trouble, il est plein d'amour pour moi, plein d'amour. Et quand je pense que j'ai toute une éternité pour te dire, ô Jésus, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Je t'aime tendrement. Doux Jésus, doux Jésus. Je t'aime.
Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le Cantique des Cantiques, chapitre 2, les versets 12 à 15.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, j'aimerais que vous me permettiez de vous répéter les paroles du chant que je viens d'interpréter. J'ai composé ce chant en m'imaginant que j'étais là, à la crucifixion, alors que mon Sauveur bien-aimé agonisait sur la croix pour moi. Voici ce que je dis. Quand je pense que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta créature, et quand je pense que le Créateur de l'univers est descendu pour moi sur cette terre, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et quand je pense que tu y as laissé ta peau afin de m'offrir le plus beau cadeau, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Je te vois sur la croix, ton visage ensanglanté, tes mains et tes pieds percés, et ton regard me trouble, il est plein d'amour pour moi, plein d'amour. Et quand je pense que j'ai toute une éternité pour te dire « Ô Jésus, je t'aime », alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et je t'aime tendrement, doux Jésus, je t'aime. Mes amis, je serais incapable de dire « je t'aime » si Dieu ne m'avait pas aimé le premier. Avant de connaître l'amour de Jésus, je croyais savoir aimer. J'étais même souffrante du fait que personne n'était capable de m'aimer autant que moi je les aimais. Oh, combien j'étais dans l'erreur. Je ne savais pas aimer du tout. Je cherchais l'amour là où je n'avais même pas le droit de le chercher. Je vous ai déjà raconté dans mon témoignage que j'avais eu quelques amants, des hommes mariés. Et pourtant, Dieu nous dit dans la Bible, dans sa parole, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais contribuer à détruire un mariage, c'est loin d'aimer son prochain comme soi-même. Mais Dieu m'a tout pardonné. Le jour où j'ai reconnu Jésus comme étant le seul qui pouvait me sauver, le seul sacrifice que Dieu pouvait agréer pour le pardon de mes péchés, la victime expiatoire par excellence. Jésus, le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean-Baptiste nous l'a dit. L'agneau de Dieu qui a ôté mon péché, celui qui m'a donné la vie éternelle, celui qui revient bientôt pour chercher son Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, aimerais-tu faire partie de ceux qui ont l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu un jour? Tu ne t'es peut-être pas livré à la débauche comme je l'ai fait dans le passé, mais il reste que tu es un pécheur toi aussi. Paul nous l'exprime bien dans le 3e chapitre de son épître aux Romains, au verset 23. Il a dit que tous ont péché. Mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et tourne-toi vers le Seigneur Jésus qui est là présentement, bras ouverts pour t'accueillir. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il veut s'empresser de te la donner. Une vie d'éternité dans la présence du Dieu vivant, dans la présence de ton Créateur. Imagine-toi être au ciel pour l'éternité.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.